France Culture et les 16 heures. Tout de suite, Sciences Publiques, Michel Alberganti.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Sciences Publiques. Une émission particulière puisque nous fêtons à la fois les 10 années d'existence de Sciences Publiques et qu'il s'agit de la dernière. De la joie donc, mais aussi une certaine émotion pour cette émission à laquelle, comme toujours, vous pouvez réagir sur notre site et nous envoyer vos commentaires au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Les informations sont-elles des entités vivantes ? Un être vivant se distingue d'un objet inanimé par sa capacité à former lui-même sa propre substance, à partir de celle qu'il puise dans le milieu, selon la formule de Kant. Il est ainsi capable de naître, de se développer, de se régénérer, de se reproduire et de mourir. La science du vivant, la biologie, étudie les mécanismes de la vie au niveau moléculaire et cellulaire, mais également au niveau de l'organisme, de la population et de l'écosystème. Au XXe siècle, la biologie moléculaire s'est plongée dans l'étude des mécanismes de fonctionnement de la cellule à l'aide des découvertes sur l'ADN, l'ARN, les gènes et le code génétique. Les molécules, nucléotides, ribosomes, acides aminés ou protéines sont les composantes de la machinerie physico-chimique à l'œuvre au cœur des êtres vivants. Une photographie instantanée du vivant fournit ainsi une image où la matière domine. Mais que se passe-t-il si l'on fait défiler le fil de l'histoire des êtres vivants sur plusieurs générations ? Dans le livre publié par Jean-Louis Dessal, Cédric Gaucherel et Pierre-Henri Gouillon sous le titre « Le fil de la vie, la face immatérielle du vivant », les auteurs citent le cas de l'homme de Néandertal, disparu il y a 30 000 ans. Hormis quelques ossements, on peut penser que cette espèce appartenant à la branche du genre Homo n'existe plus sur Terre. Pourtant, elle n'a pas totalement disparu. Il reste des traces de Néandertal dans les génomes de l'homme actuel. Ces traces sont des informations transmises lors de l'accouplement entre les deux espèces. La chair a disparu depuis des millénaires, mais l'information qu'elle contenait, elle, est toujours là. Pour autant, peut-on en déduire que l'information elle-même est vivante ? Pour débattre autour de cette question passionnante, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, en direct depuis le studio 1 de la Maison de la Radio, trois invités qui comptent parmi les fidèles de Sciences Publiques. Jean-Claude Amezen, médecin, professeur d'immunologie à l'Université Paris Diderot, président du Comité consultatif national d'éthique et producteur de l'émission « Sur les épaules de Darwin » sur France Inter le samedi à 11h. Pierre-Henri Gouillon, biologiste, spécialiste de l'évolution, professeur au Muséum d'histoire naturelle, à l'AgroParisTech et à Sciences Po. Et Jean Yvenot, médecin, journaliste sur le site slate.fr et auteur du blog « Journalisme et santé publique ». Je vous rappelle que vous pouvez nous communiquer vos commentaires et vos réflexions sur le site de Sciences Publiques, tout en bas de la page de l'émission sur franceculture.fr. Pierre-Henri Gouillon, bonjour.
Bonjour.
Votre dernier ouvrage peut surprendre de la part d'un biologiste. Vous y exposez la thèse selon laquelle le fil de la vie n'est pas matériel et qu'il est constitué non par la matière mais par l'information. Alors comment est née cette idée d'accorder une place aussi importante à ce que vous appelez la trame immatérielle à l'œuvre au sein du vivant ?
Bon, cette idée, elle était dans l'air progressivement, je dirais, à partir presque de la fin du 19e siècle. Parce que le premier qui a rejeté l'idée de l'hérédité des caractères acquis, c'est l'idée que si on perd un bras, on a des chances de faire un enfant avec un bras en moins. Il s'appelait Weismann, c'était un embryologiste allemand. Et quand il a regardé un petit peu comment ça se passait, il a vu que dans l'embryon, les cellules germinales, celles qui feront les enfants, sont séparées très tôt des autres. Et que donc ce qui arrive à notre soma, notre corps, non compris les cellules germinales, eh bien, ne pouvait pas être transmis à ces cellules germinales. Et il a pris la métaphore suivante, il a dit « ça serait comme si un télégramme partait en chinois et arrivait en allemand ». Donc Weismann, dès 1880 et quelques, emploie une métaphore explicitement informationnelle pour parler de la façon dont se transmettent les choses héréditaires. Alors après, il y a eu toute une série de manières d'exprimer cette permanence de quelque chose qui se maintient dans le temps chez les êtres vivants, malgré la disparition des organismes eux-mêmes. C'est les Anglais peut-être qui ont été les plus actifs sur ce plan-là au départ, avec un fameux livre de Dawkins qui s'appelle « Le gène égoïste ». Mais Dawkins, dans le gène égoïste, laisse encore au gène une nature matérielle. Il définit le gène comme un morceau d'ADN. L'idée, mais dans ce même livre d'ailleurs, il fait une comparaison avec ce qui se passe dans l'évolution culturelle. Et là, dans l'évolution culturelle, il invente un concept qu'il appelle le mème, qui serait l'équivalent d'un gène, mais quelque chose qui se répète à travers la culture, qui serait dans les mémoires des gens et qui se transmettrait d'une mémoire à une autre. Ce qui est intéressant, c'est que ce mot mème, maintenant, tout le monde le connaît dans la blogosphère. Hein, dès qu'un truc se reproduit bien sur le web, tout le monde appelle ça un mème. Personne ne sait que ça vient de la génétique, ce concept. Donc, vous voyez, la ressemblance entre ces phénomènes de transmission culturelle et transmission génétique est devenue une évidence progressivement, probablement, au sein de notre société de l'information, où l'information est devenue toute présente, et c'est pas vous qui travaillez dans les médias qui allez pouvoir nous dire le contraire. Donc je pense que c'est comme ça que certainement l'idée nous est venue. Et puis on s'est rendu compte que, tout compte fait, il y avait plus qu'une simple métaphore dans ces histoires-là, qu'il y avait un vrai concept, et que ce concept d'information, tout compte fait, on en parle tous les jours, mais personne ne sait ce que c'est. On s'est dit que ça vaudrait la peine d'essayer de creuser la question.
On va essayer de le faire cet après-midi. Jean-Claude Amezen, bonjour.
Bonjour.
Selon vous, alors comment peut-on décrire ce fil de la vie ? Est-ce qu'il est, comme le prétend ou comme le soutient Pierre-Henri Gouillon, constitué par l'information ?
Alors, j'ai pas eu encore le bonheur de lire le livre de Pierre-Henri. Je suis sûr qu'il est passionnant, et je crois que ce qui est intéressant dans cette démarche, comme souvent, c'est d'essayer de faire un pas de côté, d'appliquer une autre grille de lecture et de voir ce qu'il en sort. Hein, je trouve que le livre le plus intéressant de Dawkins que tu citais, il le dit lui-même, c'est un livre qui était un peu plus spécialisé, qui s'appelait The Extended Phenotype, je crois qu'il a été traduit sous le titre du phénotype étendu, et dans lequel il disait, ce que je vous propose, c'est de regarder un cube de Necker. C'est un cube qui, quand on le regarde et qu'on le fixe, change de configuration. Et il disait, voilà ce que je vous propose. C'était ça, son intérêt, ce que Pierre-Henri vient d'exprimer. C'était de regarder le monde vivant comme un ensemble d'organismes, ou de changer votre regard et de ne regarder que l'ADN, et de regarder une constellation d'ADN. Je ne vous dis pas qu'une façon de voir est plus vraie que l'autre, mais je vous dis que de passer de l'une à l'autre peut-être faire surgir des idées intéressantes. Et c'est pour ça que c'est peut-être son livre le plus intéressant, c'est peut-être le livre dans lequel il est le moins, comme il est dit pour les autres, l'avocat de la vision qu'il défend. Il est plutôt en train de montrer un côté un peu tremblant. Et c'est pour ça que je crois que prendre des grilles de lecture différentes, non pas comme réponse, mais comme moyen d'interroger ce qu'on croit connaître, est toujours quelque chose de fructueux. Maintenant, en écoutant, alors il y a deux choses qui me frappent d'emblée. C'est que nous sommes humains, et nous avons tendance à penser que ce qui est essentiel pour nous est forcément essentiel pour l'ensemble du monde vivant. Il y a toujours eu cette recherche de trouver ça a pris la forme du vitalisme, ça a pris d'autres formes. Il y a quelque chose dans le vivant qui est différent, qui doit être différent de la matière non vivante. Il y a quelque chose dans l'évolution de la vie qui doit être radicalement différent de celle de l'évolution de l'univers, hein, dont on sait seulement depuis le début du XXe siècle que lui aussi se transforme, évolue, et qu'il y a une généalogie de l'univers, comme il y a une généalogie du vivant. Et ce qui me frappe toujours, c'est que l'intentionnalité, qui a longtemps été recherchée comme une des forces actives en nature, c'est quelque chose qui nous est propre. L'information, le langage, l'écriture, la communication, c'est quelque chose qui nous est propre. Et donc, nous avons tendance à le projeter, y compris dans des mondes non conscients. Alors, est-ce que c'est une bonne façon d'interpréter le non conscient que de lui prêter quelque chose qui est très lié à la conscience? Est-ce que c'est riche? Est-ce que ça correspond à la réalité? Je vais vous donner un autre exemple. Les relations de cause à effet, ce qu'on appelle les lois de la nature, les lois de la physique, sont intemporelles. Si vous regardez les métamorphoses de l'univers depuis 14 milliards d'années, ou les métamorphoses du vivant depuis 4 milliards d'années, ce qui survit, ce sont les lois qui permettent l'enchaînement des relations de cause à effet. Est-ce que ça veut dire que ces lois de la physique, ce qui est une question et ces lois de la nature qui préoccupent les physiciens depuis longtemps, ont une existence propre? Et qu'on pourrait dire qu'au fond, le fil de l'histoire de l'univers et le fil du vivant, ce sont les forces qui sont à l'œuvre dans les relations de causalité. C'est une façon de voir les choses. Il est intéressant de questionner ces lois, dire ou penser d'emblée que c'est le, au fond, que les lois de la physique sont le fil immatériel de l'univers. C'est une façon de voir les choses. Mais est-ce que ces relations de cause à effet existent en l'absence de causes agissant sur des effets et d'effets réagissant à des causes? C'est une autre question. Donc je pense que c'est une façon intéressante d'interroger, mais qu'il y a d'autres façons semblables d'interroger la pérennité de ce qui subsiste dans les métamorphoses du monde.
Pas mal de matière à discussion avant d'avoir la réaction de Pierre-Henri Houillon. Jean-Yves Naud, bonjour.
Bonjour.
Alors pour un journaliste médecin, il s'agit plutôt d'une bonne nouvelle. Voilà que l'information se retrouve promue au rang de fil de la vie.
C'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça du tout. Le journaliste pourrait même penser que le biologiste vient chasser sur ses terres et envahir son domaine, ce qui est un peu inquiétant. Bon, le livre, il est pas simple à lire, mais il est vraiment formidable et il est surtout terriblement dérangeant. Alors, il est dérangeant à plusieurs titres, on aura l'occasion d'y revenir, mais pour moi, il est dérangeant sur un point, c'est qu'il impose d'une manière ou d'une autre à définir et l'information, qui se réduit pas au journalisme, loin de là, même radiophonique.
Je vous fais pas dire.
Voilà, ne parlons pas de la mort de la presse écrite, qui est une galéjade. Mais
il n'est pas tout à fait le sujet du.
Non, mais il impose aussi de définir la vie. Or, définir la vie, c'est pas si simple. Alors, on peut dire, dans une espèce de simplification, qui aide, c'est l'ensemble des forces qui s'opposent à la mort. Bon, ça, on va pas très très loin. Moi, j'ai une définition que je garde depuis que j'ai fait médecine, et en particulier que j'ai eu la chance d'avoir des cours de médecine légale. Les médecins légistes sont toujours très sensibles à la mort, par définition, aux causes de la mort, mais à la définition de la vie aussi. Et j'avais un professeur qui nous expliquait qu'en fait, la vie n'était rien d'autre qu'une oxygénation forcée. Si on réfléchit bien, c'est très profond. Et j'aimerais savoir ce que l'auteur pense de cette définition.
Pierre Houillon.
Alors, il y a eu aussi une définition qui était que la vie, c'était une des interactions coordonnées entre grosses et petites molécules. Et effectivement, je pense que les premières définitions de la vie, elles reposent sur la science maîtresse de la biologie de départ, qui était la physiologie. Et donc, en gros, elle essaye de définir la vie par le métabolisme. Et moi, je trouve que c'est tout à fait légitime. Et c'est seulement avec l'arrivée donc de sciences qui sont essentiellement informationnelles, parce que la génétique, elle a mis un moment, les généticiens eux-mêmes ont mis du temps à le comprendre, mais en fait ils sont quand même à peu près tous venus à l'idée que le gène c'est une entité informationnelle, que c'est pas une entité matérielle. La différence entre un morceau d'ADN et un gène, c'est la même que la différence entre un livre, structure physique, et puis ce qu'il y a dedans. Si je vous demande qu'est-ce que vous pensez du dernier roman que vous avez lu et que vous me répondez, il fait 200 grammes, c'est pas ça que je vous demande, parce que vous me répondez sur le support physique, alors que je suis en train de vous poser une question sur le contenu informationnel. Donc, comme on est très très... On est matérialiste, et je suis matérialiste évidemment, je crois qu'il n'existe rien hors de la matière, sauf que je pense que de la matière peuvent émerger des entités, donc j'ai bien du mal à parler, parce que ma science a été tellement construite seulement en regardant la matière qu'on a du mal à parler des émergences. Bon. Et l'information, c'est évidemment une émergence de la matière. Mais alors, dans ce cadre-là, quand la génétique est apparue et qu'elle est devenue importante en biologie, eh bien, du coup, il y a eu une autre vision qui a été fondée non plus sur le métabolisme, mais sur la capacité de reproduction, et sur, en fait, alors c'est pas la capacité de reproduction, parce qu'un être vivant, c'est pas un individu capable de se reproduire, un mulet qui serait stérile est tout aussi vivant qu'un cheval qui n'est pas stérile, mais c'est un organisme issu d'un processus de reproduction, et ça, le mulet, comme les autres, il a des ancêtres, même s'il est stérile, et il est issu d'un processus de reproduction avec modification, c'est-à-dire d'un processus darwinien. Au fond, on pourrait définir la vie comme le résultat de la sélection naturelle, en gros. Mais, et du coup, ça impose que, parce que la difficulté de la théorie de Darwin, la sélection naturelle, ça a l'air simple, hein, voilà, il y en a qui réussissent, d'autres qui ratent, et puis voilà. Mais ça suffit pas. Il faut que les variations soient héritables. Et croyez-moi, quand Darwin a lancé cette idée, c'était une évidence pour personne, l'hérédité des variations. Il a fallu l'émergence de la génétique pour qu'on commence à comprendre ce que ça voulait dire. Et ça a été, pendant un moment, un grand mystère. Donc, et on a toujours essayé d'éluder ce genre de choses. Et en français, c'est catastrophique. On dit que les individus se reproduisent. Vous vous rendez compte, toute personne qui a eu des enfants s'est rendu compte un jour ou l'autre qu'ils n'étaient pas reproduits. Hein. Les enfants se chargent de leur montrer que ce n'est pas eux. Hein. Donc, évidemment, quand on produit un descendant...
Ce n'est pas l'individu qui se reproduit, c'est l'espèce.
Non, l'espèce non plus, elle ne se reproduit pas. Ce qui se reproduit, ce sont les informations génétiques et épigénétiques que l'individu porte dans son génome et dans ses cellules, hein, génétiques et épigénétiques, et qui vont effectivement être reproduites à travers l'acte de reproduction, mais l'individu lui-même ne se reproduit pas.
À l'identique, vous voulez
dire. On se raconte des histoires. Ben même pas, même si jamais vous vous cloniez, ça serait pas vous. Donc c'est pas une question d'identité, c'est que l'individu c'est une entité matérielle, si vous en fabriquez une autre, c'est pas lui, il y a rien à faire. Ce qui va être dans l'entité matérielle descendante, ça va être une information. Donc ces deux définitions de la vie, l'une fondée sur le métabolisme et l'autre sur une information qui s'est reproduite avec modification et sélection, eh bien elles tombent d'accord sur Terre, pour le moment, pour pratiquement tous les organismes, sauf les deux extrêmes de taille. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'un virus... Eh bien, c'est effectivement le produit d'une reproduction, d'une information, etc. Et du coup, pour un généticien, en gros, un virus, ben, c'est vivant. Il faut avouer qu'en plus, avec maintenant les virus géants qu'on découvre, qui ont presque un métabolisme, la question devient compliquée. À l'opposé, la Terre tout entière, eh bien, il y a des gens qui ont proposé de l'appeler Gaïa pour lui donner un statut d'être vivant. Parce qu'il y a des interactions coordonnées de molécules, il y a une sorte de métabolisme de la Terre. Mais ça, pour les généticiens, c'est pas acceptable, parce que la Terre n'est pas issue d'un processus de sélection naturelle. Il n'y a pas eu une Terre qui fabriquait des petites terres, et puis quand ça marchait bien, on les gardait, puis quand ça marchait pas, on les éliminait, et une reproduction d'une information à l'échelle de la Terre qui se soit faite. Donc, c'est pas grave, il y a deux définitions de la vie, une fondée sur le métabolisme et l'autre sur l'information qui se reproduit et la sélection. Et puis, bah, ces deux définitions coexistent. Le tout, c'est de dire de laquelle on choisit quand on parle de vivant, quoi.
Alors, Jean-Louis.
L'avantage de la définition selon laquelle la vie est une oxygénation forcée, c'est le côté forcé.
Oui, oui. Je comprends bien. Ça veut dire que ça revient sur le problème de l'intentionnalité dont a parlé Jean-Claude. Et effectivement, c'est un vrai problème pour nous. Alors, là où je suis pas d'accord avec ce qu'a dit Jean-Claude, c'est qu'il parle de... Il a l'air d'inféoder la volonté à la conscience. Or, pour moi, la volonté préexiste largement à la conscience, c'est-à-dire que... Et d'ailleurs, même chez nous, je pense qu'il y a plein de trucs qu'on fait parce qu'on veut les faire, mais sans mettre en œuvre notre conscience. Il y a des tas de travaux qui ont montré des trucs comme ça. Je sais pas si c'est le sujet d'aujourd'hui, mais on voit bien qu'on peut très bien boire un verre parce qu'on veut boire un verre, mais sans mettre en œuvre du tout des faits de notre conscience.
Mais la question, c'est, s'agit-il d'intentionnalité?
Mais l'intentionnalité, est-elle le fruit d'une conscience?
Ça, c'est... Je veux dire, le mouvement de la Terre autour du Soleil, qui obéit à un certain nombre de règles, nous considérons qu'il n'est pas intentionnel, ouais, tout simplement parce qu'il n'y a pas de conscience. Et je pense que le mouvement d'une bactérie, et le mouvement d'une bactérie qui navigue vers du sucre, je veux dire, nous considérons qu'il est extrêmement ciblé, mais qu'il n'est pas intentionnel.
Et un renard qui court après...
Il y a une conscience.
Et donc, tu vas être capable de dire...
Prêter,
parce que quand c'est
prêter, on va
entre
projeter.
La bactérie et le renard, attends, on va continuer. Alors, un ver de terre...
L'émergence, tu sais que Darwin disait que l'émergence d'une activité mentale au cours de l'évolution du vivant est un mystère au moins aussi important que l'émergence de la vie à partir de la matière. C'est un sujet, disait-il, pour le futur lointain, si tant est que nous puissions le résoudre. Donc l'émergence des différents niveaux de conscience, des différents niveaux d'univers mentaux est très complexe. C'est-à-dire quand commence, alors on a cette vision un peu simpliste qui est définition, c'est que il n'y a d'univers mental que s'il y a des cellules nerveuses, tout simplement, parce que nous savons que donc les plantes n'ont pas d'univers mental, parce que les plantes n'ont pas de cellules nerveuses.
Les vers de terre, on peut leur
donner. Ont-elles le tournesol qui suit les mouvements du soleil, est-ce un mouvement intentionnel? Je crois qu'il y a une c'est pour ça que je parlais de contrainte, ce qu'évoquait Jean Hinault, qu'on peut aussi traduire en termes de relation de cause à effet, qu'on peut décrypter. Mais est-ce que sous prétexte qu'une cause agit sur un effet, il y a information transmise? C'est une question complexe. Et la question de l'information, je trouve, il y a quelque chose d'historique qui est intéressant dans un domaine qui n'est pas le mien et que je connais mal. Newton a proposé sa théorie qui était très mystérieuse, qui est celle d'une interaction instantanée qui va plus vite que la vitesse de la lumière entre des corps avec une loi produit de la masse sur le carré de la distance. Et puis, il s'est avéré que ça ne permettait pas d'expliquer en particulier la trajectoire de Mercure, et que ce que Einstein a proposé pour remplacer cette interaction, cet échange d'informations, on pourrait dire, parce que est-ce que c'est une interaction déjà, c'est tout simplement que l'espace est courbe, et que donc les rotations ne sont pas dues à une interaction directe entre les planètes, ce qui paraissait évident depuis Newton, mais simplement à des contraintes exercées par l'espace. Donc je crois que une des grandes questions, c'est, il y a des interactions. Il y a, c'est dommage qu'on n'ait pas un mathématicien ou un physicien, parce que pour un physicien, l'information, c'est de l'entropie négative. C'est assez...
Mais ça, on en parle pas mal, mais c'est pas la même chose.
Pour Boltzmann, c'est des probabilités. Donc il y a information en fonction de la probabilité. Donc il y a toute une série, je dirais, en fonction de l'approche disciplinaire, de définition de ce qu'on appelle l'information. Est-ce qu'on lit une information quand une interaction produit une relation de cause à effet? Est-ce que la Terre lit et interprète la gravité? C'est intéressant et c'est complexe. C'est pour ça que je dis que c'est une façon intéressante de reposer des questions sur ce qu'on croit connaître. Mais en termes de réponse, c'est profondément ambigu.
France Culture, Science Publique, Michel Albert-Gonti.
Je vous rappelle que nous débattons aujourd'hui autour de la question « Les informations sont-elles des entités vivantes ?» avec nos invités. Jean-Claude Amezen, président du Comité consultatif national d'éthique, Pierre-Henri Gouillon, biologiste, professeur au Muséum d'histoire naturelle et à l'AgroParisTech, ainsi qu'à Sciences Po, et Jean-Yves Naud, médecin, journaliste sur le site slate.fr, auteur du blog Journalisme et Santé publique. Donc là, on est parti sur des concepts assez compliqués, on va dire. J'aimerais bien qu'on revienne au livre de Pierre-Henri Gouillon, et avec peut-être un exemple pour illustrer ce que signifie cette transmission, ce fil de la vie vu à travers la transmission d'informations. Vous utilisez par exemple un exemple du parc de Yellowstone qui conserve la mémoire d'un certain équilibre dans lequel le loup joue un rôle important. Et ensuite, vous allez nous raconter ce qui se passe.
Oui, en réalité, on a essayé de développer donc cette idée d'information à trois niveaux. Hein. Et c'est intéressant parce que le niveau auquel on pense en premier, c'est les informations culturelles, justement, celles qu'on échange tous les jours avec nos voisins et qu'on entend à la radio. Et puis après, donc, on a l'information génétique, dont on sait qu'elle se transmet de génération en génération. Et puis, Cédric Gaucherel en particulier, donc, qui travaille sur les écosystèmes, est venu ajouter cette composante écosystémique en disant, oui, un écosystème, au fond, c'est un ensemble d'entités qui lisent... Un message qui se trouve dans l'écosystème, et cette information écosystémique se reproduit, et elle peut être bien sûr détruite, elle peut être perturbée, elle peut être modifiée, mais tant qu'elle est là, eh bien elle va pouvoir permettre de recréer des choses qui, même si ces objets ne sont plus là. À Yellowstone, quand les loups ont été éradiqués, il y a eu des changements majeurs qui se sont produits. Il y a eu des espèces différentes.
Un grand parc naturel.
Oui, un grand parc naturel américain. Donc le loup disparaît et il y a plein de changements. Voilà. Et d'ailleurs, dont d'autres espèces qui, a priori, n'avaient rien à voir, qui disparaissent aussi. Et quand on a réintroduit le loup, eh bien, les autres espèces qui avaient disparu sont revenues. Et donc, cette
idée... Les espèces d'oiseaux, il y avait aussi... les plantes étaient modifiées par la prolifération des élans qui supprimaient certaines espèces d'arbres, qui elles-mêmes avaient une influence sur certaines espèces d'oiseaux. Et ensuite, donc, l'équilibre est revenu à l'état antérieur.
Et je pense que ça, c'est un sujet vraiment intéressant, parce qu'évidemment, on peut décrire tout ça en termes d'interaction... physique. Hein. Simplement, on peut toujours décrire un phénomène informationnel en termes d'interaction physique. Vous vous rendez bien compte que si je demande à mon voisin de me passer le pain, et puis qu'il me passe le pain, je vais pouvoir dire, voilà, je lui ai demandé de me passer le pain, il m'a passé le pain. C'est une description. Vous pourriez aussi faire une description en termes de mon cerveau a envoyé des instructions à tout mon système respiratoire et à mes cordes vocales, ça a fait une vibration de l'air, la vibration de l'air est rentrée dans l'oreille de mon voisin, de l'oreille de mon voisin, c'est allé dans son cerveau, et par des opérations physico-chimiques, ça a fait que son bras a bougé et qu'il a attrapé un morceau de pain, etc. Vous voyez bien que cette deuxième descriptions sont justes.
Elles coïncident.
Simplement, il y en a une qui est incroyablement synthétique et qui permet de comprendre en gros ce qu'on a besoin de savoir, et puis l'autre qui va se noyer dans des tas de détails. Or, c'est la même chose avec l'écologie. Si jamais, en regardant les écosystèmes avec une approche informationnelle, on devenait capable un peu mieux de comprendre comment ils s'équilibrent, comment ils déséquilibrent, comment on va revenir sur un état intérieur ou pas en fonction des perturbations qu'on a faites, ça serait un phénomène, ça serait une réussite extrêmement importante. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, hein, il y a des nouvelles techniques, hein, qui s'appellent CRISPR-Cas9 et autres, hein, qui permettent éventuellement d'envisager le fait d'éradiquer certaines espèces, de moustiques par exemple, il y a des gens qui s'y attellent. Et ben, si on n'est pas du tout capable de prévoir ce que ça va changer à un écosystème, de faire disparaître une espèce, c'est quand même un petit jeu qui est on ne peut plus dangereux. Donc avoir une vraie compréhension grâce à une approche informationnelle de la façon dont fonctionnent ces trucs-là, sans avoir besoin de connaître chaque interaction matérielle, ça me semble un enjeu extrêmement important sur le plan scientifique.
Jean-Claude Amezen ?
Oui, je crois. Moi, pour moi, encore une fois, je ne discute pas du livre. Je ne voudrais pas donner l'impression de discuter du livre, puisque je ne l'ai pas encore lu. On discute des questions qui sont évoquées. Pour moi, l'information, c'est essentiellement ce que l'observateur déduit de l'ensemble des niveaux d'explication, et comme le disait Pierre-Henri, qui peuvent être extrêmement variés, qui peuvent rentrer dans des détails, qui peuvent être beaucoup plus synthétiques, beaucoup plus conceptuels. Au fond, il y a mille façons, il y a mille degrés de granularité avec lequel, de finesse, avec lequel on peut approcher un phénomène. Et ce que décrit Pierre-Henri, qui est une information extraordinairement importante à avoir pour nous, ça peut être décrit en termes de robustesse et de vulnérabilité de réseau. Ça peut être décrit, ça se calcule d'ailleurs, hein, vous avez là. Et donc c'est pour moi l'information plutôt a priori que de penser qu'elle préexiste ou qu'elle existe en tant que telle. C'est ce que nous construisons ou que d'autres êtres vivants construisent à partir de visions différentes. C'est pour ça que je trouve que cette grille de lecture est intéressante, parce qu'elle interroge notre vision. Hein, mais je crois qu'elle nous parle plus de nous que de ce que nous étudions. C'est difficile, d'ailleurs. Vous savez, c'est le problème de l'observateur et de l'influence de l'observateur. Je crois que lorsque nous parlons d'information, et c'est là que ça rejoint tout ce qui est culturel, ben en fait, nous parlons autant de nous que de ce que nous observons. On peut même se demander, d'ailleurs, s'il est possible de décrire quelque chose de l'univers ou de l'univers vivant en nous en abstrayant. Et donc c'est en ça que ce concept d'information est intéressant, parce que c'est une forme d'aller-retour entre ce qui existe et ce que nous disons de ce qui existe.
On peut quand même noter également que cette notion de génétique, et donc de code génétique, là on voit apparaître déjà quelque chose qui ressemble à de l'information, tout ça est né en même temps, ou est apparu en même temps au niveau de la science, que tout le développement de l'informatique qui a fini par croiser énormément, se rapprocher énormément des deux, à rapprocher ces deux domaines. Donc, est-ce que l'un a influencé l'autre en termes de vision par l'homme de la nature? Mais Jean Livneau voulait intervenir.
Ben, je voudrais jouer au journaliste.
Je vous en prie.
Je regarde ce livre qui est en librairie maintenant et qui va être acheté. Et les gens, en général, avant d'acheter un livre, maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, depuis plusieurs décennies, les livres ont les quatrièmes de couverture, avant ils n'en avaient pas, et on lit le quatrième de couverture avant d'acheter le livre. C'est souvent l'élément décisif. Et là, les gens qui l'achèteront, ce livre, liront qu'on parle effectivement de nouvelles entités vivantes qui ne sont pas matérielles, qui ne seraient pas matérielles. Ces entités vivantes, c'est ce dont nous parlons, ce sont des informations. Alors, je résume, les informations sont vivantes, c'est pas rien. Mais en plus, elles ne sont pas matérielles. Alors là, j'aimerais quand même que l'un des trois auteurs qui est avec nous nous en dise un tout petit peu plus.
Pierre-Henri Bouillon, là, est sollicité directement, on va dire.
Oui, l'idée est la suivante. Quand un biologiste, aujourd'hui les biologistes, une part importante de l'activité des biologistes, c'est de regarder l'histoire de la vie, hein, parce que quel que soit un organisme qu'on étudie, à un moment ou à un autre on va regarder son génome, mais quand on va regarder son génome, on va essayer d'en comprendre l'histoire. Et on va regarder l'histoire donc de ce génome, et puis d'ailleurs souvent avec l'histoire des formes qui sont voisines. Donc si on veut bien comprendre un génome humain, bah c'est pas mal d'avoir aussi le génome des grands singes, etc. Et on n'arrête pas de voir ces arbres qu'on appelle phylogénétiques, qui sont maintenant enseignés au lycée. Et quand on regarde un arbre comme ça, il y a des traits qui relient Là, il y a un arbre avec des traits, et ces traits, on peut se demander qu'est-ce qui passe le long des lignes. Et ce qui passe le long des lignes, au fond, c'est la vie qui est transmise. Et qu'est-ce qui est transmis? Qu'est-ce qui transmet la vie? C'est cette information génétique. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai hérité, moi, de mon ancêtre commun avec le bonobo? J'en ai hérité des informations génétiques. Matériellement, j'en ai rien hérité. Il n'y a pas un atome de mon corps qui se trouverait dans cet ancêtre commun. Mais les informations, elles, se sont transmises. Ce qu'il y a de, le point de départ de notre réflexion, ça a été de se rendre compte que tout compte fait, ces informations génétiques sont écrites donc sur l'ADN, ça, comme chacun sait, mais qu'un ADN en soi, c'est quelque chose de parfaitement amorphe. Alors, on a dit des tas de bêtises sur ce plan-là. Il y a des tas de gens qui ont dit que les gènes produisaient des protéines, par exemple.
S'expriment,
etc. Les gènes, c'est un truc qui bouge pas. Enfin, le gène, en termes, le bout d'ADN qui porte le gène, c'est un truc totalement amorphe. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose. Parce que si l'ADN était une molécule très active, eh ben, elle n'arrêterait pas de changer. Et du coup, l'information qui est écrite dessus n'arrêterait pas de changer. Or là, la qualité de l'ADN, c'est d'être amorphe. Exactement, d'ailleurs, comme le papier et l'encre. Le papier et l'encre, c'est des bons supports d'information. Parce que c'est des trucs qui réagissent pas trop, t'en remets pas le feu, avec l'environnement. Donc, ces informations, elles sont amorphes. C'est un premier point. Mais elles sont amorphes, mais elles peuvent être recopiées. Et elles peuvent être lues par un système de lecture. Et là, au fond, ce texte, soit celui qui est sur l'ADN, soit celui qui est dans un livre, ne prend à une vraie dimension informationnelle qu'au moment où il est lu. C'est-à-dire que tant qu'il n'est pas lu, c'est jamais qu'une structure amorphe. Dire qu'un gène produit une protéine, c'est aussi bête que de dire qu'une recette de tarte aux pommes a produit une tarte aux pommes. Évidemment qu'une recette de tarte aux pommes n'a jamais produit une tarte aux pommes. Ce qui produit la tarte aux pommes, c'est le cuisinier. Et le cuisinier va produire cette tarte aux pommes grâce à la recette. Donc vous avez déjà deux éléments, la recette et le cuisinier. Et vous avez un troisième élément qui est l'environnement, c'est-à-dire la cuisine, les pommes, le beurre, la farine, etc. Et vous voyez, cette métaphore de la recette de cuisine du cuisinier et de l'environnement, elle s'applique parfaitement à la biologie, puisque vous avez l'équivalent de la recette, c'est le génome. L'équivalent du cuisinier, bah, c'est notre corps, nos cellules qui vont lire cet ADN. Et l'environnement, bah, c'est tout l'environnement dans lequel on se trouve. Avec une particularité en plus d'ailleurs chez les êtres vivants, c'est que l'environnement est partiellement héritable. Nous construisons notre environnement et nous le transmettons à nos descendants. Donc en réalité, eh bien, ce qui est vivant dans cette affaire, c'est bien tout ce système informationnel qui se reproduit. Alors le système informationnel, lui, il se reproduit à travers des organismes dont la fonction majeure est justement de le reproduire. Et
j'entends bien ce que vous dites, mais c'est très curieux, c'est à vous écouter. On entend un enseignant, vous faites de la pédagogie, vous expliquez des choses qui sont de l'ordre du Lego, de la fabrication, du rationnel. Or, précisément, votre livre, quand on le lit, nous emmène aux frontières de quelque chose qui ne l'est pas. Et c'est d'ailleurs le côté passionnant de cet ouvrage. Dire que la vie peut être immatériel, vous savez très bien vers quoi vous nous emmenez. Vous nous emmenez vers les frontières de la religion, de la théologie, vers Dieu, vers la Bible. Vous le sentez ou vous le pressentez et vous sentez que c'est un risque pour les lecteurs ou pas ?
Pierre-Henri Gouillon.
Nous avons tenté, mais peut-être sans succès, d'éviter que ça aille jusque-là, disons. C'est-à-dire que on voudrait faire comprendre qu'on peut être totalement matérialiste, mais admettre que des émergences comme l'information émergent de la matière. Vous savez, quand le pape Jean-Paul II a dit que tout compte fait, l'évolution était plus qu'une hypothèse, après, il y a tout un développement, et il conclut que les théories de l'évolution, alors je ne pourrais pas le citer exactement, mais en fonction des idéologies qui les inspirent, si ma mémoire est bonne, parmi celles-là, toutes celles qui font émerger l'esprit de la matière ne peuvent pas rencontrer la vérité de l'homme. Et c'est là que la vraie différence entre la théologie et la science pour moi se fait. Je suis matérialiste parce que je pense que l'esprit émerge de la matière, parce que je pense que l'information émerge de la matière. Je pense que si jamais je pensais que cette information existe indépendamment de la matière, alors je ne serais plus dans la science mais dans la religion.
Oui, ça me fait penser à peut-être enfin une approche de cette, tu as raison de la mentionner, hein, Pierre-Henri, de cette dualité qui passionne les philosophes et les neurosciences entre l'esprit et le cerveau, donc l'esprit et la matière. Spinoza, il y a longtemps, disait que le corps et l'esprit sont une même chose vue sous deux angles différents, hein, un peu ce cube de Necker dont je parlais au début. Et donc cette notion d'information est peut-être une façon de voir les choses différemment et non pas une entité en tant que telle. Hein, je crois que c'est ça qui est, c'est un outil, c'est un levier. Moi, en écoutant Pierre-Henri, je me dis, prenez la fournaise d'une supernova, une étoile en train de mourir. Elle transforme de l'hélium, qui a une structure que tu appellerais informationnelle très précise, avec des interactions précises. Un atome, après tout, c'est une interaction qui définit précisément ce qu'est cet atome. L'hélium n'est pas l'hydrogène et n'est pas l'or, l'argent. Et puis, à partir de la fusion de cet atome, d'autres atomes vont apparaître, qui ont un degré d'organisation très précis, et que d'ailleurs, si on parle d'information, Mendeleïev, dans son tableau, a magnifiquement non seulement décrit, mais prévu. Il a prévu la place d'éléments qu'on est en train de synthétiser ou de découvrir aujourd'hui. Donc on pourrait décrire ces magnifiques fournaises des atomes de l'univers que sont les supernovas, comme des producteurs de nouveautés à partir de l'information. On le décrit pas comme ça, et je pense qu'on ne le décrit pas comme ça, parce que au fond, on a pris l'habitude, mais ça n'a que quelques siècles, de voir l'univers non vivant, j'allais dire indépendamment de ce qui nous est le plus proche, information, intentionnalité, esprit, conscience, immatérialité. Et donc pour moi, ce qui est intéressant, et ce qui serait intéressant, et que vous faites peut-être dans le livre, c'est comment un physicien, comment un astrophysicien, j'allais dire, utiliserait ces concepts dans des configurations non vivantes. Est-ce que ça ne s'applique qu'aux vivants ? Est-ce qu'il y a une césure ? Est-ce que ça peut s'appliquer aussi aux non vivants ? Est-ce que ça peut s'appliquer à l'émergence à partir de la matière non vivante de la vie ? C'est ça que je trouve intéressant comme outil. Pour se débarrasser un peu de cette tentation de prêter aux vivants en général ce qui nous est propre en tant qu'être humain.
Pierre-Henri Gouillon.
Oui, on y vient légèrement. On n'a pas été très loin là-dedans parce que bon, mes deux collègues ont une formation de physicien, mais ils travaillent tous les deux. Enfin, Cédric Gaucherel travaille sur les écosystèmes, et Jean-Louis Dessal travaille sur l'intelligence artificielle. Donc ils sont dans des champs et sur les langages. Mais donc ils sont dans des champs connexes, et donc c'est pour ça qu'à nous trois, on couvrait quand même un petit peu, mais on n'allait pas jusqu'aux sciences de l'univers. En tout cas, l'idée à laquelle on est arrivé tous les trois en discutant, c'est la question de l'origine de la vie, au fond, qui est un peu essentielle. Et on voit bien que nous, on s'est quand même concentré sur une information codée avec un système de décodage qui... Bon, alors, j'aimerais pas du tout le mot intentionnalité que tu as employé tout à l'heure. Effectivement, on n'emploie jamais. La question de la finalité, on pourrait discuter, ou de la téléonomie pour parler savant, comme ça on aurait plus d'ennuis. Je pense que c'est pas la peine d'en discuter ici, mais effectivement, il y a plein de développements sur ces sujets-là. Mais en tout cas, la question commence, on passe d'un monde inanimé à un monde avec des êtres vivants. Et sur ce plan-là, ce qui nous a semblé intéressant, c'est qu'il y a une sorte de généalogie de l'information. C'est-à-dire que si on imagine le monde de la chimie prébiotique, hein, la petite mare chaude dont parlait Darwin, dans laquelle toutes sortes de molécules vont commencer à interagir et puis fabriquer des cycles et des trucs qui se referment sur eux-mêmes, etc. Moi, l'image que j'en ai personnellement, ça a dû être une chimie incroyablement complexe. À mon avis, l'arrivée du vivant a dû la simplifier, contrairement à ce qu'on croit, parce que ça a dû être un bazar terrible avec des molécules dans tous les sens. Et puis, à beau jour, ont commencé à exister des entités capables de se reproduire. Et à ce moment-là, est arrivée cette information écosystémique dont on parlait avec le loup de Yellowstone. Et une fois que cette information écosystémique a été là, elle a pu être sélectionnée et commencer à se développer, alors qu'il n'y avait pas encore d'ADN. Mais à beau jour, cette information a pu être reproduite sur l'ADN, et là, elle a pris une pérennité qui lui a permis de se booster en termes évolutifs à un point tel que, même si ce qui existait avant était encore de l'inanimé et était déjà informationnel, le niveau d'information que peut porter une molécule d'ADN est incomparable avec ce que pouvaient faire les trucs d'avant. Et donc, on a eu cette deuxième phase dans laquelle on est passé donc de la chimie prébiotique et de cette information écosystémique à une information génétique. Et puis l'information génétique a été sélectionnée progressivement. Un beau jour, elle a fabriqué des grands singes qui sont devenus globalement des champions de la transmission d'information. Et notre espèce, qui n'a qu'une caractéristique, mais c'est une caractéristique forte, c'est d'être vraiment alors une espèce ultra-informationnelle. Et donc, on est passé à l'information culturelle. Donc, il y a une espèce de généalogie de l'information écosystémique du début à l'information génétique et à l'information culturelle. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire de regarder le monde comme ça, je
trouve. Il y a quand même une différence, apparemment, d'approche entre Jean-Claude Amezen et Pierre-Henri Gouillon, dans la mesure où, pour Jean-Claude Amezen, c'est plus une façon de voir la nature, alors que Pierre-Henri ne cède pas sur la question de la constitution même de ce fil de la vie en termes d'information.
C'est normal, c'est ce qui rend intéressant la discussion. Ce que je voulais dire, c'est compliqué l'information. On peut par exemple l'approcher par contrainte. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas utiliser l'ADN plus que 3 bases par 3 bases, et si vous ne pouvez pas, eh bien vous créez une forme d'entropie négative qu'on définit comme de l'organisation, qu'on peut définir comme de l'information. Donc il y a deux façons de voir. Il y a une façon de voir comme si cette information existait, et d'où vient-elle, et comment savait-elle qu'elle était une information, et qui savait qu'il pourrait l'utiliser.
Pierre-Henri répond par l'émergence.
Non, il y a un système de contraintes qui produit de l'émergence parce qu'il réduit les possibilités de variation. Ce qui est très étonnant, et Pierre-Henri doit en parler, c'est le très haut degré de conservation de ce qu'on appelle le code génétique. C'est-à-dire que depuis 4 milliards d'années, la façon d'utiliser l'ADN a peu varié. Ça a un peu varié. C'est une contrainte énorme. Et donc, est-ce que cette contrainte ne nous dit pas quelque chose? Si vous voulez, ce qu'on appelle un état organisé d'un gaz, c'est quand une partie ou la totalité des molécules est contrainte, ce qui fait qu'elle est dans un état ordonné. La contrainte crée de l'ordre et nous permet de dire qu'il y a de l'information. Lorsqu'il n'y a pas de contrainte, la concentration du gaz est la même partout. Hein, et donc, il y a une question intéressante. Est-ce que c'est... Alors, ce qui émerge, c'est de la complexité. Mais est-ce que la contrainte... Vous parliez d'oxygénation forcée. Mmh. Alors, c'est intéressant parce que le début de la vie est non oxygéné, puisque l'oxygénation arrive au bout d'un milliard. L'utilisation.
L'utilisation.
Bon, et même l'émission dans l'atmosphère. Mais ce qui est intéressant, c'est de penser, je crois, ce que nous voyons, et qui est tout est un processus émergent. C'est l'émergence est quelque chose de tout à fait extraordinaire et fondamental. Mais ce que nous voyons, au fond, comme intéressant par le résultat, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser, qu'est-ce que je vais pouvoir lire, entre guillemets, de le voir comme le résultat d'une contrainte, c'est-à-dire le fait que tout n'était pas possible, et que donc la configuration est devenue rare, particulière. Si on le voit en termes de contrainte, ce que nous appelons là aujourd'hui de l'information, c'est ce qui a résulté de contraintes. C'est pas quelque chose qui existe en tant que tel.
Alors, juste un mot pour préciser, cette durée de vie de l'ADN que vous citez dans le livre et qui peut surprendre, qui est de 700 000 ans.
On a des éléments, mais ça peut...
Dans le permafrost.
Voilà, c'est ça.
C'est-à-dire le DNA le plus ancien qui a pu être isolé, si ma mémoire est bonne, est celle d'un ancêtre de cheval. Par Villerslev, danois, et c'est 750 000 ans. Mais c'est 750 000 ans parce que c'est dans le permafrost.
Mais permafrost quasiment... soviétique.
Doublement gelé, c'est ça. Et donc l'idée, c'est que peut-être un million d'années. Vous savez, c'est amusant. Boltzmann a montré que ce que nous appelons la chaleur provient du mouvement des molécules. On pourrait dire que le mouvement des molécules transmet une information dont la résultante est la chaleur. C'est pas comme ça qu'on le décrit. Ce sont des états qui sont associés. Ce sont des relations de cause à effet. Lorsque vous êtes dans le froid, tout bouge moins. Lorsque vous êtes au zéro absolu, même les atomes ne bougent pas. Et donc, moins ça bouge, moins ça se dégrade. Et donc, les ADN les plus anciens, comme tout ce qui est le plus ancien, d'ailleurs les graines les plus anciennes, ont été découvertes en Sibérie, encore capables de germer après des milliers d'années.
France Culture, Science Publique, Michel Albert-Gonti.
Nous débattons aujourd'hui la question, les informations sont-elles des entités vivantes, avec nos invités Jean-Claude Amezen, président du Comité Consultatif National d'Éthique, Pierre-Henri Gouillon, biologiste, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, Jean Yvenot, médecin, journaliste sur le site Slate.fr, auteur du blog Journalisme et Santé Publique. On n'a pas encore complètement élucidé cette question du caractère vivant des informations, Pierre-Henri.
Je voulais dire deux choses. La première, c'est que la manière dont on s'exprime, et ce que dit Jean-Claude Amezen, c'est pas quand même si opposé que ça. Dès l'avant-propos du livre, on dit que bien que la vie repose entièrement sur la matière, le fil de la vie, ce qui en fait l'unité, n'est pas de nature matérielle, et donc ça va être de nature informationnelle, c'est cette émergence. Et je vous passe un peu la suite, mais après on dit notre approche cherche à déceler ce qui perdure dans les structures. Ce nouveau regard ne s'oppose pas aux descriptions plus classiques des êtres vivants et de leurs interactions. Il ne les remplace que lorsqu'il s'agit de déceler une logique dans le fonctionnement de la vie sur des durées qui dépassent celles des entités vivantes. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est bien ce changement de regard dont tu parlais. Alors, effectivement, l'ADN, c'est une molécule incroyablement stable et incroyablement capable de conserver l'information. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que La métaphore avec les informations culturelles, bah, elle devient réelle, c'est plus qu'une métaphore, puisque certains informaticiens qui s'inquiètent du fait que les puces, les disques durs et compagnie ne durent pas très longtemps, sont en train de se dire que pour les informations vraiment précieuses, si on veut les conserver, peut-être que la meilleure manière, c'est de les écrire sur de l'ADN. J'ai vu plein de gens qui étaient très étonnés quand je leur disais qu'on allait transférer des données d'informatique sur l'ADN, mais je peux pas expliquer pourquoi.
Un livre a été
on sait parfaitement recopier sur de l'ADN des informations d'informatique et ensuite les relire et les remettre dans un ordinateur, ça pose aucun problème technique. Donc on dépasse la métaphore là maintenant, on est carrément dans la technique qui utilise la similitude entre ces informations.
Juste un Jean-Claude petit détail, mais parce qu'il est humoristique, Pierre-Henri le sait, c'est que l'ADN ancien, celui qui a 1000 ans, 100 000 ans, il est en tout petits morceaux, il a été dégradé, c'est un exploit extraordinaire qui requiert de l'informatique de très haut niveau, de pouvoir le reconstruire. Ce qui permet de distinguer un ADN ancien et de montrer qu'il n'est pas contaminé, parce qu'en général il y en a très peu, il est contaminé par toute une série de micro-organismes vivants qui sont autour, c'est justement qu'il est découpé en tout petits morceaux. Donc il est à la fois stable en tant que matière, mais il se dégrade comme, j'allais dire, comme
les séquences ne changent pas.
Voilà, enfin, à condition de les reconstituer.
Jean Livneau.
Alors, je vais prendre une autre focale. Là, on bavarde, on échange, comme si tout allait peut-être pas le mieux dans le meilleur des mondes, mais enfin, on ne parle pas de pathologie. On ne parle pas du normal et du pathologique. Comment est-ce que, dans cette lecture, dans cette approche du vivant et de la transmission d'informations que vous dites vivantes, comment est-ce que vous intégrez la dimension pathologique, celle contre laquelle les médecins luttent, contre laquelle les vétérinaires luttent, contre laquelle les fabricants d'OGM luttent, et contre laquelle lutteront bientôt tous ceux qui seront outillés du fameux CRISPR et qui rééditeront du génome, et du génome humain en particulier.
Ouais, CRISPR-Cas9 dont on a parlé longuement dans cette émission, oui. Et qui d'ailleurs fait aussi une métaphore qui a un rapport avec l'information, puisque on fait la métaphore du traitement de texte qui, comme image de l'ADN, que l'on peut reconfigurer à volonté.
Et la métaphore couper, de l'édition, de l'édition, de la réédition.
Voilà, de l'édition aussi avec le terme anglais en particulier.
Réédition.
Pierre-Henri Gouillon. Il faut que vous sachiez que les termes qui ont permis de décrire la façon dont est lu l'ADN par les cellules sont des termes qui, de toute façon, sont empruntés à tout ce qui concerne la lecture d'informations humaines, puisqu'on a d'abord une transcription sur de l'ARN, ensuite on a une traduction d'ARN en protéines, et c'est les mots consacrés, maintenant ça on ne les changera plus. Et puis on peut avoir, entre la transcription et la traduction, une édition des ARN. Tout ça existe depuis longtemps, simplement ça se fait naturellement, et il y a maintenant donc ces systèmes qui permettent de faire une réédition et
alors,
remodifier.
Parlez-nous de la coquille et de la correction.
Alors, la coquille dans la reproduction, enfin dans la
coquille.
Je suis très gêné de parler de pathologie, moi qui suis agronome avec deux médecins, hein, je me sens pas du tout compétent par rapport à vous, mais le truc quand même, la première réaction moi à votre question, c'est de dire tout. Les êtres vivants sont apparus grâce à des anomalies. Chacun de nos traits a été une anomalie au moment où il est apparu, mais cette anomalie, à un moment ou à un autre, a eu une utilité, ou au moins a pas fait de mal d'ailleurs, et du coup, l'évolution l'a conservée. Donc si jamais on enlevait tout ce qui n'est pas normal, si on avait enlevé tout ce qui n'était pas normal, si jamais nos ancêtres, nos ancêtres communs avec les chimpanzés, avaient décidé qu'ils étaient tellement bien qu'il fallait surtout rien changer et avaient éliminé tous les individus qui n'étaient pas comme eux, évidemment on ne serait pas là. Hein. Et il y a entre autres des mutations catastrophiques dans notre génome. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi je suis agronome justement, alors une maladie très très grave chez les mammifères, c'est la perte des poils. Quand un éleveur voit apparaître un veau comme nous avec quelques poils sur le caillou, quand on est jeune au moins, et puis quelques poils au pubis, mais pas ailleurs, eh bien l'éleveur jette ce pauvre organisme, il ne va pas lui tricoter un petit pull et lui mettre un chauffage dans son étable. C'est une mutation qui est létale, et c'est une maladie génétique mortelle. Voilà. Je suis très admiratif devant nos ancêtres qui, un jour, voyant naître un enfant comme ça, ne l'ont pas fichu à la poubelle, franchement. Et ce qui est remarquable avec
nous... Est-ce qu'il est né brutalement comme ça un jour
Il y a des chances, parce que c'est une mutation qui se produit assez spontanément et de façon assez brutale. Alors peut-être qu'il y a eu des prémices, un petit peu une peine, mais je ne pense pas que ça a été vraiment progressif, je pense qu'il y a vraiment des mutations comme ça. Ce qui est remarquable avec les humains, c'est que aussi mal fichu qu'il soit, il trouve que c'est comme ça que c'est bien d'être. Je ne sais pas si vous avez remarqué.
Moi, je pensais que vous me diriez que la pathologie, la maladie, était simplement une erreur d'information.
Oui, mais toute erreur d'information. Nous ne sommes mais que erreur, des sommes d'erreurs de rugby.
Erreur, c'est un jugement. En fait.
Nous sommes une sorte de. Nous sommes tous des accumulations de coquilles.
Donc coquilles au sens du plan informationnel.
Oui, ce qui est accueilli quand même.
Ce qui était joli d'ailleurs, si on cherche un fil de la vie, parce que Pierre-Henri vient de l'exprimer, c'est la grande hospitalité des parents vis-à-vis de leurs enfants. Il n'y aurait pas eu de métamorphose d'espèces et d'émergence d'espèces nouvelles s'il n'y avait pas eu cette hospitalité vis-à-vis de l'inconnu, vis-à-vis du nouveau. Donc c'est aussi un fil complexe à partir du moment où la conscience émerge ou avant que la conscience émerge. Mais ce que je voulais dire, c'est que la variation, si on parle d'erreur ou d'anomalie, on est déjà en train de... La variation... C'est ce qui fait l'évolution du vivant. S'il n'y avait pas eu de variation, eh bien, le monde serait, au bout de 4 milliards d'années, sans doute même pas bactérien, parce que les bactériens sont des tars venus, mais quelque chose qui ressemblerait au monde bactérien. Si des éléphants, des arbres et des êtres humains sont apparus, c'est parce que l'ADN sur les temps longs ne cesse de varier. Alors, cela entraîne de la souffrance et de la mort. Darwin lui-même avait un problème moral qu'il a exprimé, c'est que, au fond, l'évolution du vivant se fait au prix de la disparition prématurée et de la souffrance d'un grand nombre d'enfants. C'est ce qu'il avait frappé avec Wallace. Et il disait, bon, tant que la conscience n'est pas apparue, c'est pas grave, c'est comme ça que la vie a émergé. Mais à partir du moment où les activités mentales et la possibilité de souffrance est apparue, c'est à la fois un mécanisme merveilleux et d'un autre côté, c'est un mécanisme terrible, il provoque la souffrance. Donc je crois que ce qui, sur le long fil de la vie, comme dit Pierre-Henri, et l'émergence de ce que Darwin appelait l'infinité des formes les plus belles et les plus merveilleuses, au niveau individuel sur la durée d'une vie, peut être source de souffrance. La médecine ne s'intéresse pas, en tout cas à mon sens, aux anomalies ou aux erreurs. Elle s'intéresse à la souffrance humaine. Et donc, des variations peuvent provoquer de la souffrance. Et à chaque génération, les variations peuvent provoquer des difficultés et de la souffrance. Quand on regarde sur le long fil, on regarde l'émergence de la diversité du vivant. Quand on regarde à chaque génération, dans toutes les espèces, eh bien, certaines de ces variations entraînent de la souffrance.
Alors comme on approche quand même assez rapidement du terme de l'émission, je voudrais que Pierre-Henri Gouillon nous explique comment lui, à la suite de l'analyse qui est faite dans ce livre, comment il voit peut-être un autre regard, un nouveau regard sur la nature qui exploiterait ce constat que vous faites d'une forme de vie dans cette caractéristique de la nature qui est l'information qu'elle transmet.
Alors, je voudrais déjà dire que moi, quand j'ai commencé à comprendre les choses de cette façon-là, je me suis rendu compte que les informations n'étaient pas matérielles en elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles pouvaient changer de support. Vous savez bien qu'un truc peut être écrit sur un livre, vous pouvez le photocopier, là vous passerez sur un autre bout de papier, mais vous pouvez ensuite le scanner, à ce moment-là il va passer dans une puce, vous pouvez l'apprendre par cœur, à ce moment-là la même information sera stockée dans vos neurones d'une façon qu'on ne connaît pas encore bien.
La métaphore de cette émission qui peut être écoutée sur un poste de réception ou bien sur Internet.
Si les auditeurs y réfléchissent, je voudrais qu'ils essayent de s'imaginer ce qui est en train de se passer. Donc, nos cordes vocales font vibrer l'air. La vibration est récupérée par un micro qui transforme ça en un petit courant électrique. Ensuite, ça passe dans des circuits informatiques. Ensuite, ça devient des ondes. Ces ondes arrivent jusqu'à, si jamais ils l'écoutent à la radio, ces ondes arrivent jusqu'à leur poste de radio. Sinon, ça devient des trucs qui passent dans des fibres optiques pour arriver chez eux par le web. Et puis, ensuite, ça se transforme de nouveau en vibration et ils entendent ce truc-là et ils comprennent le message. Donc, il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Cette information. Et si jamais.
Pierre-Henri, vous pourriez ajouter que l'émission peut s'arrêter aussi.
Oui, l'émission pourrait s'arrêter, malheureusement, on peut le dire, mais au moins, justement, l'émission Science Publique s'arrêtera, mais cette information, elle sera passée, et elle pourra encore être transmise, elle pourra même être enregistrée.
Donc et nous sommes vivants.
Voilà, nous sommes vivants. Oui. Et donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment posé problème, parce que je me suis dit, mais comment est-ce qu'une information immatérielle peut agir, puisqu'on peut dire quand même que si jamais il n'y avait pas cette information, bah les êtres vivants n'existeraient pas. Et donc, évidemment, l'information en elle-même n'agit pas, mais il faut un système de lecture. Et ça, il faut vraiment comprendre ça. Tant qu'il n'y a pas un système qui lit l'information est absolument inactive. Il faut le cuisinier. Et ça, je pense que quand on va regarder les choses comme ça, on commence à regarder le monde un peu autrement. Il faut bien voir que dans ma jeunesse, il y avait des informations comme le Capital de Marx qui a eu beaucoup d'influence sur le monde vivant, sur le monde humain en tout cas. C'est des informations qui étaient inactives mais qui étaient rendues actives par le fait que des gens les lisaient et voulaient appliquer ce qu'il y a écrit dedans.
Jean-Claude Amézé.
Oui, j'aurais
en quelques secondes.
Voilà, une vision un peu plus simple. Vous ne pouvez pas avoir de vie ou même de matière sans interaction. Les interactions ne peuvent pas ne pas provoquer des effets. Ces effets peuvent être eux-mêmes utilisés ou avoir des conséquences. Donc je vais vous donner un exemple simple. Un animal qui marche, suivant le support sur lequel il marche, ne peut pas ne pas laisser de traces. Cette trace, c'est simplement l'impossibilité, la contrainte du fait que si vous marchez sur le sol, sauf si vous marchez sur la pierre très très forte et encore vous pouvez laisser une odeur, eh bien vous ne pouvez pas, en gros, ne pas modifier votre environnement. À partir du moment où cette impossibilité de ne pas modifier votre environnement existe, eh bien elle peut avoir un effet sur d'autres, ou sur vous-même, vous pouvez revenir sur vos traces. Mais dire qu'en ayant marché, vous avez laissé une information que vous allez utiliser pour rebrousser chemin, c'est une autre façon que de dire que vous n'avez pas pu marcher sans modifier votre environnement, et que cette modification, eh bien, elle a changé l'environnement, elle devient utilisable. Donc l'information, c'est ce qu'on fait des effets. Ce n'est pas, à mon sens, quelque chose qui existe en tant que tel, mais c'est une autre façon de voir le même type de questionnement.
Tu laisserais des traces, même si tu ne voulais pas, alors que l'ADN n'a pas pu se fabriquer si jamais il n'avait pas les effets qu'il a. C'est-à-dire que les traces existeraient même si elles n'avaient pas d'effet. L'ADN, les séquences d'ADN n'existeraient pas si elles n'avaient pas l'effet qu'elles ont.
L'ADN sans cellules et sans ARN de transfert ne laisse pas de traces.
Il n'existerait pas.
Enfin, il existerait, mais
non, il n'existerait pas. Je pense qu'il n'existerait pas. De même que le livre, si jamais personne ne lisait, il n'y aurait pas de livre.
On est dans le monde mental.
Non, mais c'est pareil. L'ADN, on ne peut pas imaginer que ce soit créer une molécule d'ADN complexe comme la nôtre si jamais elle n'avait pas pour effet de permettre la production d'un organisme.
Je sais que c'est la raison pour laquelle Wallace ne croyait pas à l'émergence de l'homme par la théorie de l'évolution du vivant.
Je ne pense pas qu'on puisse aboutir et finaliser totalement cette conversation, cette discussion.
Vous le disiez au début, ce qui est beau, c'est la question, c'est l'outil, c'est le levier.
Et donc le débat de Sciences Publiques d'aujourd'hui s'achève. Merci à Jean-Claude Amézène, Pierre-Henri Gouillon et Jean Yvenot d'avoir été là aujourd'hui comme ils l'ont été souvent au cours des 10 dernières années. Sur notre site, vous trouverez les références du livre écrit par Jean-Louis Dessalles, Cédric Gaucherel et Pierre-Henri Gouillon, intitulé « Le fil de la vie, la face immatérielle du vivant » et publié aux éditions Audi Jacob en avril 2016. Toujours sur notre site, vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours, la podcaster pendant 1 an, et bien entendu nous faire part de vos réactions, commentaires et témoignages. C'est possible tout en bas de la page de Sciences Publiques.
Et on peut pas dire merci à Michel Albiaganti pour nous avoir offert cette merveilleuse émission.
Et bonne merci chance. Michel.
Merci
et bonne
à vous.
Chance pour tout.
Pour ma part, donc au moment où va se rompre le fil immatériel qui nous a reliés à vous, auditeurs de France Culture pendant tant d'années, je ressens une vive émotion avec cette dernière émission de Sciences Publiques. C'est une très belle aventure qui se termine et je voudrais remercier tous ceux qui l'ont rendu possible. Laure Adler qui m'a fait confiance et David Kessler qui a installé les émissions quotidiennes de Sciences sur France Culture. Brigitte Alléo, la réalisatrice qui m'a soutenu lors des premiers pas trébuchant devant le micro. Dany Journeau, la réalisatrice de Sciences Publiques qui a toujours était là derrière la vitre pour m'encourager d'un sourire et qui est encore là aujourd'hui. Merci aux techniciens qui ont su s'adapter à toutes les situations, même les plus imprévues, au cours des directs, sans oublier Elisabeth Gornet pour les droits d'auteur. Et puis, merci à mes collaboratrices, bien sûr, sans leur soutien quotidien, Science Fiction d'abord, puis Science Publique n'aurait pu recevoir les invités, plus de 2000, qui sont venus débattre autour des relations entre la science et la société. Je veux parler de Christine Gage, Catherine Donnet et Marie Dalquier. Merci pour votre présence et votre amitié. Un grand merci également à tous les invités qui sont venus ici gracieusement pour débattre en direct de sujets parfois difficiles. Sans leur disponibilité, leur talent et leurs efforts pour être compréhensibles par le plus grand nombre, la science n'aurait pas pu trouver sa place sur France Culture. Enfin, je ne risque pas de vous oublier, vous les auditeurs de France Culture, qui ont démontré ce qui paraissait improbable à certains.
c'est-à-dire votre goût, votre intérêt et même votre passion pour les questions scientifiques, même lorsqu'elles sont complexes et pas toujours faciles à faire passer à la radio. Au fil de ces années, c'est grâce à vous que la science a trouvé sa place, la place qu'elle occupe aujourd'hui sur les ondes de France Culture. L'augmentation constante des chiffres des podcasts, des émissions de Culture Science, a permis à la science de s'inscrire à la troisième place derrière la philosophie et l'histoire. Et c'est donc grâce à vous que la science restera présente sur les ondes de France Culture tous les jours à la rentrée. Car le plus important, bien entendu, c'est que le fil de la science ne soit pas rompu sur France Culture. Pour terminer, un mot sur cette chaîne. Chaque semaine, en arrivant à la maison de la radio, j'ai ressenti comme un miracle la chance de pouvoir animer Science Publique avec une telle liberté et avec des invités d'une telle qualité. En ces temps difficiles pour les journalistes, France Culture fait de plus en plus figure d'exception. J'adresse tous mes vœux à Sandrine Trainer, directrice de la chaîne, pour préserver cet espace de liberté d'expression qui n'a pas de prix. Science Publique, Dany Journeau, Élise Leu, Marie Dalquier, Michel Albertanti.